Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Ah, nous allons retrouver Éric le Rouge, la véritable saga d'Éric le Rouge. À la dernière émission, nous les avions quittés, nos Vikings, en train d'explorer, de conquérir le Groenland. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ah oui, les Unites n'étaient pas de grands adversaires. Alors, il est évident que dans ces conditions, la conquête fut une formalité. Il y avait là d'immenses territoires, pas très cultivables, mais pleins de ressources. L'ivoire d'abord, ce bel ivoire fourni par les dents de ces grosses bêtes amorphes que sont les morses. Et des morses, il y en avait plein. Les fourrures, surtout les peaux de phoque, mais également les peaux d'ours blanc. Tout cela ferait d'excellents objets de commerce en Normandie, par exemple. Éric se frottait les mains d'avance. Il se voyait déjà revenant en Islande, en Normandie, pour y songer ses richesses contre tout ce qui manquait à la colonie. Il y recruterait de nouveaux colons. Oh, c'est pas ça qui serait le plus compliqué. Mais pourquoi ne pas profiter du voyage de retour maintenant que le pays était conquis pour commencer la chasse ? Après tout, les Unites se sont repliés dans les territoires glacés. Les hommes d'Éric n'ont plus rien à faire. Et ça, c'est jamais bon pour un chef. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, un discours bien senti, histoire d'avoir l'air démocratique et de faire approuver son idée par ses hommes, et les voilà qui se mettent à massacrer les phoques à tour de bras. Ah, et c'est vraiment le cas de le dire. Le mieux, car il ne s'agit pas d'abîmer la fourrure avec une lance, une épée ou une hache, c'est d'assommer la bestiole avant de la dépecer. Et comme les phoques n'ont pas l'habitude des hommes, surtout les petits, ils se laissent attraper sans trop de difficultés. Comme quoi, la vie est bien faite. C'est les petits qui fournissent la meilleure qualité de fourrure. Et après, il n'y a plus qu'à semer tranquillou et hop, on a une belle fourrure toute neuve que Bobonne tannera et qu'on pourra vendre très cher à ses comptes normands. Ah ouais, les normands. Ah bah tiens, on v'là des vikings qui se sont bien démerdés. Ah, les normands. Oh, pas con le Rollon. En 911, il a réussi à se faire nommer duc par le roi de France, duc de Normandie, c'est pas rien. Et tout ça parce qu'il a su s'implanter intelligemment. Il arrive par la mer, lâche ses berserkers, Je vous ai expliqué dans la précédente émission, les berserkers, c'était des guerriers complètement fous qu'on lâchait en avant pour effrayer les populations. Alors, il leur ordonne à ces berserkers de massacrer les premiers habitants rencontrés en prenant bien soin de laisser fuir quelques survivants qui, eux, s'empresseront de raconter les horreurs qu'est capable de commettre l'envahisseur, et hop, le tour est joué. Tout le monde va trembler devant ses troupes. Et quand il se pointe, il peut négocier tranquillement. Une petite rançon, une fourniture d'esclaves, de l'autre côté, des terres, et de fil en aiguille, un duché. Bon. Vous allez trouver que cette méthode est une sorte de vol. Mais, je vous l'ai dit, le viking est avant tout un commerçant. Et certains prétendent qu'on ne peut pas être à la fois commerçant et honnête. Hein. Enfin, en tout cas, comme la Normandie est un coin à vaches, le Rollon, pas fou, s'est spécialisé dans la production du beurre. Ah, pas con le Rollon. Là-haut, dans la mère patrie, c'est pas facile hein, de faire pousser des vaches quand l'huile de foie de morue, on s'en lasse. Alors du coup, le Rollon, il se faisait des couilles en or en bazardant son beurre très cher à ses compatriotes. Alors, pas con non plus, se dit Eric, nous, on va faire pareil avec nos fourrures et notre ivoire. On va aller vendre très cher parce que la fourrure de phoque en Normandie, c'est rare. Hein. Et que l'ivoire, c'est le top pour fabriquer des pièces de jeu d'échecs et que nous autres, vikings, on joue salement bien aux échecs. Et tout le monde a son jeu d'échecs, c'est comme les Ruskov. Ah bah tiens, il se dit même que si tu veux, on prend Kasparov à la prochaine occasion, hein. Et puis, comme ça, on profitera du voyage pour faire quelques courses. Alors, là, je vais faire une parenthèse culturelle. C'est une petite réflexion qui me vient à moi, l'auteur, comme ça, au déboté. Cher auditeur, chère auditeuse, chère auditrice, je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce que je viens de vous révéler. Vous aimez le cinéma ? Eh bien, si les Vikings n'avaient pas envahi la Normandie, et si Rollon n'avait pas eu cet esprit commercial, nous n'aurions jamais pu voir au cinéma un chef-d'œuvre tel que Le Dernier Tango à Paris. Ah, car il faut bien reconnaître qu'une grande partie du succès de ce film est dû à l'emploi en vedette de cette matière grasse de tout premier choix. Alors, il ne serait pas du tout étonnant que Bertolucci ait été nommé citoyen d'honneur et bienfaiteur public quelque part en Normandie. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais suite à ce film, les ventres de beurre normands ont augmenté de façon considérable. Bon, revenons à Eric. Quand ils ont fait le plein, hein, c'est qu'il faut se les porter, ces putains de fourrures. Les Vikings rentrent au village et c'est en ployant sous le produit de leur chasse qu'ils comprennent ce qu'a voulu dire Eric quand il leur parlait de faire venir de nouveaux colons. Hein ? Parce que plus de colons, ça veut dire plus d'esclaves. Et qui dit plus d'esclaves, dit moins de boulot. Hein ? Ah, bon plan, hein ? Et c'est donc joyeusement qu'ils font leur entrée dans le village. Dans un premier temps, tout le monde s'extasie. Oh, oh là là, les belles fourrures! Oh, bah on va pas avoir froid cet hiver avec tout ça, hein? Alors, Eric explique, Il dit comment on va pouvoir faire du commerce avec les Normands, qu'on va s'en mettre plein les poches, que la vie s'annonce sous de bons auspices. Quand tout à coup, une voix se fait entendre. Tout le monde la connaît, cette voix. C'est celle de Brigitte Bardot, leur chanteuse-danseuse préférée. Et Brigitte Bardot, elle trouve scandaleux ce massacre. Sa voix emplit l'espace, du coup les hommes n'ont Dieu que pour elle. Et il faut dire qu'elle est plutôt gironde, hein. Elle leur dit qu'ils sont cons comme des bites, que c'est mignon un bébé phoque, et qu'elle, Brigitte Bardot, ça la fait pleurer l'idée qu'on puisse taper sur une gentille petite bestiole comme ça. Et puis, elle emploie les grands arguments. Elle dit que s'il massacre tous les bébés phoques, il risque d'y avoir pénurie, et qu'il faut être sacrément con pour scier la branche sur laquelle on est assis. Mais que bon, elle veut pas non plus leur retirer le pain de la bouche, et que si on lui promet de les bousiller sans violence, les bébés phoques, elle n'aurait rien contre. Mais on va appliquer un quota, hein, attention. Hein. Alors évidemment, quelques-uns des chasseurs essayent bien de râler, mais quand elle s'approche d'eux en roulant des hanches et en leur faisant les yeux doux, ils ne disent plus rien. Et la vie continue. Nos Vikings passent l'hiver à chasser, entassant les fourrures et l'ivoire. Les plus habiles sculptent des pièces de jeu d'échecs, et tous ont hâte que le printemps arrive, qu'un premier voyage soit possible, que poussent les cultures, que vêlent les vaches, qu'agnellent les brebis. C'est qu'ils n'en ont plus que marre de cette odeur, de cette saveur de poisson qui imprègne toute leur nourriture. Car s'il est normal que le poisson ait le goût de poisson, manger du phoque ne change rien. Car le phoque mange que du poisson et conséquemment sa chair a le goût de poisson. Les ours eux-mêmes, qui se nourrissent que de phoque ou de poisson, ont une saveur marine. Et au creux de l'hiver groenlandais, le viking rêve tartines beurrées et poularde à la crème. Qu'est-ce que c'est que cette empêcheuse de tuer en rond? Ça vous rappelle pas quelque chose? Et vous, consommez-vous du beurre normand? Quelqu'un va-t-il un jour répondre à toutes ces questions? Or, aucune question ne figurera sans doute dans le prochain épisode. Mais rien n'est pas fait en ce bas monde. Aussi, malgré ce désaveu, nous vous invitons à patienter quelques instants pour écouter la suite de notre grand feuilleton, la véritable saga d'Éric le Rouge, où le fond de l'air est frais. Et frais, pas froid, hein, fait peur, tous les jours. Sous ses latitudes. Nos Vikings virent arriver le printemps avec la joie que l'on imagine. Quel bonheur de se retrouver à l'air libre après ces mois où ils vécurent confinés dans leurs habitations, envahis par les remugles de poissons et de bouses de vaches. Oh, n'allez pas imaginer qu'ils partageaient leur espace vital avec ces bêtes à cornes. Cette pratique familière des campagnes françaises leur était étrangère. Mais il fallait bien remédier au manque de bois de chauffage. Et tout le monde vous le dira, la bouse de vache séchée est un excellent combustible. Oh, bien sûr, cela demande un peu de travail, ramasser les bouses, les faire sécher, les entasser dans un lieu sec. Ben, c'était principalement les enfants qui étaient chargés de cette tâche. Et je vous laisse imaginer dans quel état ils pouvaient rentrer à la maison le jour où ils leur prenaient l'idée de se quereller. Ah oui. Mais voilà le printemps, et toutes ces petites vicissitudes ne sont bientôt plus que de mauvais souvenirs. Éric et quelques braves restent en compagnie des femmes, des enfants, des esclaves, pour cultiver terres et réapprovisionner le stock de fourrure et d'ivoire en vue de futures transactions. Pendant que la plupart des hommes prennent la mer à bord de deux knorrs. Alors les knorrs, hein, c'était des bateaux vikings, mais pas des drakkars. Les knorrs, c'était les bateaux marchands. Bon, enfin, ces deux knorrs étaient chargés à ras-bord de ces mêmes marchandises qu'ils espèrent bien échanger avantageusement chez leurs compatriotes normands. Je vous rappelle que nous sommes en l'an de grâce 982. Comme vous ne l'ignorez pas, sans doute, fin des lettrés que vous êtes, Richard Ier est duc de Normandie depuis 942. Il tient ses turbulents voisins, les Francs, en respect grâce à quelques troupes scandinaves et la paix règne dans le duché. Les Vikings normands se sont convertis au catholicisme sous Rollon et son fils Guillaume Longuepée fut un chrétien résolu. Richard, lui, continue dans cette voie, et le duché prospère, quoi qu'en disent les habitants. Hein. Parce qu'il est de notoriété publique que si vous demandez à un Normand si les choses vont bien, il vous répondra « Oh, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, enfin c'est selon, sans vouloir s'engager plus haut. » Nos Vikings reçoivent un accueil à la hauteur de leurs espérances. Les fourrures partent comme des petits pains ainsi que les pièces d'échecs. Des contrats sont signés, des navires marchands viendront livrer des céréales et d'autres marchandises en terre groenlandaise et repartiront avec les productions locales. Bref, ce voyage est un succès. Ils ont même recruté de nouveaux colons et c'est une flotte d'une bonne dizaine de navires qui reprend bientôt la mer vers le Groenland. Inutile de vous raconter la joie d'Éric et des autres Groenlandais quand ils voient arriver cette flottille et apprennent ces excellentes nouvelles. Dorénavant, ils seront ravitaillés régulièrement. Leurs marchandises seront écoulées et il semblerait qu'il ne sera pas difficile de convaincre d'autres Vikings de venir les rejoindre. Hein ? Que demander de mieux ? 2 années passent. Éric peut enfin rentrer en Islande. Il compte sur ses talents d'orateur pour persuader de nombreux nouveaux autres colons. Plus ils seront nombreux, plus la colonie sera prospère. Le voyage se passe sans problème et c'est avec joie qu'Éric retrouve ses anciens compagnons. Les Vikings islandais n'étaient pas mieux lotis que ceux du Groenland. L'Islande vivait de l'agriculture, de la pêche, mais les céréales et le bois étaient importés de Norvège. Il n'y avait ni ville, ni village. Le commerce et l'artisanat étaient réduits à l'autosuffisance de même que l'élevage. Et ils étaient 40 000. Alors pourquoi ne pas tenter la chance dans les nouvelles terres qu'Éric leur vantait si bien? Ah, il fallait le voir, Éric, quand il parlait. Monté sur une table, une estrade ou sur n'importe quoi de haut placé, il haranguait la foule. Alors, l'auteur a écrit « haranguait » avec un « e », mais c'est pas une faute d'orthographe. Hein. Les Vikings, en bon scandinave, adoraient le « harang » sous toutes ses formes. Le roll-mops, fumé, mariné, et j'en passe. Et Éric, en arrivant dans un hameau, faisait savoir qu'il procéderait à une distribution gratuite de harangues le soir même. Ses hommes fignolaient la mise en scène, des torches judicieusement disposées, des étendards, un étalage de richesse, et bien sûr, tous portaient des vêtements de fourrure de premier choix. Ce décorum impressionnait les pauvres Islandais, et les harangues, et les discours d'Éric faisaient le reste. De là à supposer que l'étymologie du verbe « haranguer » avec un « a » est liée à cette pratique, il n'y a qu'un pas que je franchirai encore une fois allègrement, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit plus faux qu'autre chose. Voilà. Cette pratique eut incontestablement les résultats escomptés, puisque le nombre de fermes groenlandaises atteignit un total de 280. Et une ferme était en réalité le regroupement d'une famille et de ses esclaves. Hein ? Ce qui, je vous le rappelle, réunissait au bas mot une vingtaine de personnes. Et en quelques années, la population du Groenland passa de 300 à près de 6000 individus. La colonisation du Sud-Groenland pouvait véritablement commencer. Ah, évidemment, cela n'alla pas sans quelques difficultés. Contrairement à ce qu'on dit à propos de la mort, dans les migrations, ce ne sont pas les meilleurs qui partent en premier. Les volontaires pour ce genre d'équipés sont en général des têtes brûlées, des aventuriers, des repris de justice ou des pauvres qui n'ont rien à perdre à aller voir ailleurs si des fois l'herbe n'y serait pas plus verte et la vie meilleure. Les nouveaux colons n'avaient que très peu de bétail, ce qui était un handicap sur le plan des ressources en nourriture, viandes et lait, des ressources énergétiques, bouse de vache pour le sauvage, et enfin sur le plan de l'artisanat, car de nombreux ustensiles étaient fabriqués à partir de cornes, de sabots, de vessies et d'autres déchets animaux. Éric comptait surtout sur leur force de travail pour cultiver la terre, ce qui réduisait les importations. Mais il comptait aussi pour eux pour chasser le phoque, les morses et l'ours, produits pour lesquels la demande était en hausse. Évidemment, ils durent en passer par une nouvelle négociation avec le mouvement qu'avait créé Brigitte Bardoët, qui avait pris pour devise « Chaud vont les bébés phoques !» En réaction à celle de la chanteuse protectrice des bébés de ce mammifère pinnipède, les chasseurs créèrent un contre-mouvement dont la devise était « Fuck la police !» Les choses auraient dégénéré si, encore une fois, Éric n'était intervenu, distribuant quelques baffes aux uns et la promesse d'un cachet plus important à chaque prestation à l'autre. Alors, quelques questions avant le prochain épisode. Les mauvais jeux de mots sont-ils contagieux? L'auteur aura-t-il des ennuis avec la peau lisse? Quel taux de croissance va connaître le Groenland les années suivantes ? C'est que ce que nous pourrons certainement apprendre dans le prochain épisode de notre grand feuilleton, la véritable saga d'Éric le Rouge, où le fond de l'air est frais, fait peur, et le temps passe vite sous ces latitudes. Ah, comme vous le savez, certains peuples consultent les astres, d'autres les entrailles, d'autres encore le marc de café pour connaître l'avenir. Le Viking, lui, se fie aux runes. Alors, une rune se présente sous la forme d'un truc qui ressemble vaguement à un galet, fabriqué dans des matériaux aussi divers que variés. Hein. Ça peut être de la pierre, de l'argile, du bois, de l'ivoire, enfin, et tout un tas de sortes de choses. Les runes groenlandaises étaient pour la plupart du temps en ivoire, puisque sous ces latitudes, cette matière était on ne peut plus commune. Chaque rune est gravée d'une figure plus ou moins cabalistique de forme primaire, une flèche, un X, un trait, un H, un M, enfin des formes quoi, et porte un nom du style Thor, Ur, Féro, Berk, enfin des noms imprononçables, et chacune d'elles a une signification particulière. À titre d'exemple, voici l'interprétation d'une de ces fameuses runes. Et les runes sont au nombre de 34. 24, je dis une bêtise, c'est de 24, pas 34, 24, 24 runes. Alors il y en a une qui a grosso modo, ça ressemble à un M. Et de son vrai nom, elle s'appelle Hervaz. Et quand on la tire, ça signifie voyage, transport, changement, confiance. Enfin, en termes élaborés, cette rune exprime le déplacement. Elle peut indiquer un changement de travail, un déplacement professionnel, un voyage ou un déménagement. C'est une source de progrès. Cette figure vous demande une véritable ouverture d'esprit. Ces runes donnent aussi un conseil. Donc, quand on sort ce M, Hervaz, là, ça veut dire aussi tenez-vous prêt à prendre les rênes, à vous adapter, à changer d'horizon physiquement ou spirituellement. Enfin bref, vous devez bouger, voyager, découvrir, débarrassez-vous des vieux problèmes et lancez-vous dans l'aventure. Et pour chaque acte important ou jugé comme tel, le Viking plonge la main dans une sorte de bourse qu'il porte à la ceinture et qui contient ses fameuses runes. Il en choisit une au hasard, en priant Thor, Odin, Ugling ou toute autre divinité, et il ouvre la main, regarde la rune qu'il a choisie et sourit, grimace ou tape du pied de rage ou il hausse les épaules selon le résultat qu'il satisfait ou non. Hein, c'est... Ceux qui haussent les épaules sont rares car presque tous croient en ses prévisions. Et si la consultation des runes peut se faire à la va-vite hein, quand il s'agit d'une petite décision journalière, il n'en va pas de même quand l'événement est d'importance. La récolte des réserves d'alimentation hivernale pour le bétail, entre autres, fait l'objet d'une très grande cérémonie à laquelle les Vikings apportent le plus grand soin. Ah, on peut dire qu'ils soignent particulièrement la rune des foins. c'est qu'il ne s'agirait pas qu'il pleuve. Il faut donc prendre toutes les précautions, faire des offrandes à Thor, le fils d'Odin qui protège le monde des hommes contre les géants, les petits démons de la forêt, contre le froid, contre la faim, et surtout à Freyr, qui est bon et généreux et qui est le dieu de la fertilité. En période guerrière, on allait même jusqu'à sacrifier quelques esclaves. Mais comme il faut préserver la main-d'œuvre, nos Groenlandaises se contentent de sacrifier quelques bœufs qui, une fois rôtis, agrémenteront de manière pas désagréable le festin qui suivra la lecture de l'oracle. Mais il faut surtout se mettre en condition, et pour cela, les prêtresses, les officiants et les simples spectateurs se gavent de certains champignons dont les effets ne se contentent pas d'être alimentaires. Cette pratique, proche du culte chamaniste du Payol, a pour but de faciliter la vision. Hein ? La vision, ça, je ne sais pas, mais les visions, oui, sûrement. Hein. Et quand tout le monde est dans l'état qui convient, le tirage peut commencer. Hein. C'est un peu comme celui du loto sur TF1, avec les champignons en plus. La grande prêtresse plonge les mains dans la bourse à runes, tout en se palmodiant de vieilles et saintes paroles. Elle saisit une rune au hasard, et d'un mouvement similaire à celui du curé au moment de l'offrande, la montre à la foule. Ce rite est accompli 3 fois consécutives, et ce n'est qu'après ce cérémonial que les runes sont examinées et que la lecture de l'augure puisse se faire. Évidemment, les Vikings ne sont pas plus innocents que n'importe quel paysan bien de chez nous, et ils ont pris la précaution de mettre toutes les chances de leur côté, et c'est quand la météo est bonne que ce rite a lieu. Hein ? 2 précautions valent mieux qu'une, sous ces latitudes comme sous les autres. Alors après quoi, on peut passer à la partie festive, qui se déroule comme d'habitude avec musique, viande rôtie, boissons enivrantes, et tout ce qui est nécessaire à ce genre de circonstances. Ah, une petite précision en ce qui concerne les foins proprement dit. Comme le climat du Groenland est relativement humide, que la fréquence des précipitations ne permet pas le séchage de l'herbe étendue au sol, les Vikings utilisaient des techniques d'étendage. Alors, comme on n'est pas à la télé et que vous ne pouvez pas voir l'image, la technique d'étendage, ça consistait à tirer des fils, comme les fils à linge, quoi. Et ils étendaient le foin comme vous étendez vos draps, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, mais ça évite de pourrir. Alors, ces techniques ont perduré jusqu'à nos jours et se pratiquent encore dans les îles Lofoten notamment. Hein ? Toutes ces précisions hautement culturelles ne doivent pas vous faire oublier que l'aventure, c'est l'aventure et que de l'aventure, il ne va pas tarder à y en avoir. Il faut bien le reconnaître, nos Vikings groenlandais s'emmerdent. Ah ouais, mis à part les soirées où Brigitte Bardot accepte de se produire, il n'y a pas de réelle distraction à se mettre sous la dent. Taper sur les bébés phoques devient un tantinet lassant à la longue, Et passer ses soirées à sculpter des pièces d'échecs est aussi déprimant que de supporter Jean-Pierre Foucault dans ses prestations télévisuelles. Pas la moindre rapine à effectuer aux environs. Il y a bien longtemps que les indigènes ne s'aventurent plus aux alentours des villages vikings et restent prudemment blottis dans leurs igloos au nord de l'île. De temps en temps, une chasse à l'ours met un peu de piquant dans la morne quotidienneté, mais il n'y a pas de quoi s'esbaudir. Dans ces conditions, on comprendra facilement que l'arrivée d'un convoi de navires marchands normands ou islandais fasse l'objet d'une véritable fête. D'abord parce que cela signifie l'arrivée de tout ce qui manque dans cette rude contrée, des amis, des nouvelles de la famille, des nouvelles du monde civilisé. Et puis, les occasions de faire la fête ne sont pas si fréquentes. L'une des grandes joies est la livraison de céréales. Ah, le blé ne mûrit pas sur les terres groenlandaises et le manque de pain se fait sentir plus souvent qu'on le souhaiterait. L'arrivée d'un navire chargé de céréales veut dire pain frais, bière, gâteau d'hiver, la joie quoi. La plupart du temps, les navires normands et marchands qui se hasardaient jusqu'à la colonie étaient ceux d'amis islandais et justement normands. Et pourtant, quelques Norvégiens tentent le voyage, mais pour eux, ça se passe pas toujours aussi bien. S'ils ont le tort d'être peu nombreux, nos vikings groenlandais ne voient vraiment pas pourquoi ils paieraient pour des marchandises qu'ils peuvent se procurer gratuitement. Et après tout, ils ne les connaissent pas, hein, ces Norvégiens. Hein, personne ne s'inquiétera de leur disparition avant de nombreux mois. Et puis, il peut s'en passer des choses en mer, hein, une tempête ou l'attaque de pirates. Ou Eric et ses hommes accueillent donc les Norvégiens comme si rien n'était, allant même jusqu'à sacrifier un bœuf pour leur offrir un banquet. Et lorsque les Norvégiens s'endorment, gavés de nourriture et de boissons, rien de plus facile que les égorger. Ah, une bonne affaire, hein ? Toute une cargaison de nourriture et les navires en prime, sans bourse déliée. Hein ? Une bonne raison de plus pour faire la fête, non ? Ah, mais dans l'ensemble, ça manque quand même de distraction, d'aventure. Les hommes s'ennuient, les jeunes surtout. Et c'est alors que débarque Bragni Erjolfsson. Bragni Erjolfsson est islandais. Il est négociant. Et quand il arrive sur les côtes groenlandaises, son équipage et son navire sont dans un état déplorable. Dépenaillés, harassés, affamés, ils errent sur les flots déchaînés depuis des semaines. On les accueille, on les nourrit, on les réconforte, et ceci étant fait, on les écoute. C'est Bragni qui, en tant que capitaine, prend la parole.
Quand nous sommes partis d'Islande, le temps était clair, mais ça n'a pas duré. De lourds nuages s'amoncelaient à l'ouest. Bientôt, Thor, sans doute en colère contre les hommes, se déchaîna. Le ciel était zébré d'éclairs. Les vagues, hautes comme des montagnes, faisaient danser notre embarcation comme un fétu de paille.
Ouais, je sais, là, c'est la figure est un tantinet image d'Épinal. Mais Bragni est un marin. Un marin, un brin grandiloquent, hein, on ne pourrait pas lui reprocher. Hein. Et il continue.
Nous n'arrivions plus à diriger le bateau. nous prîmes le parti de tomber la voile et de nous en remettre aux dieux, en espérant que Thor ferait preuve de bonté à notre égard. Nous dérivâmes ainsi pendant des heures et des heures. Le ciel était si noir que nous ne savions plus si c'était le jour ou la nuit. La pluie tombait sans cesse. Les lames menaçaient sans cesse de jeter à la mer les hommes et les marchandises. Nous arrimâmes le mieux possible les quelques marchandises que nous avions pu sauver. Nous-mêmes, nous nous attachâmes au bandonnage pour ne pas risquer d'être emportés. Nous chantions pour nous donner du courage et surtout pour ne pas penser que notre dernière heure était proche. Le bruit des vagues, du vent, du tonnerre était si présent que c'est tout juste si nous ne pouvions entendre notre propre voix. Nous devions écoper sans cesse de crainte d'être engloutis. Je ne saurais vous dire combien de temps dura la tempête. Abrutis par le bruit, le froid, la fatigue, nous n'avions plus conscience de notre propre existence. Et enfin, notre navire cessa de bondir tel un cheval sauvage. Peu à peu, la pluie cessa, le silence revint. Il faisait nuit et le ciel était encore si couvert qu'il nous fut impossible de voir la moindre étoile. Épuisés mais heureux d'être encore en vie, nous nous endormîmes après avoir remercié Thor de son indulgence. »
Et là, Ragni s'interrompt. Il a soif. Et c'est à qui il lui tendra une corne pleine. Tous ont hâte qu'il reprenne son récit. Les Vikings adorent les histoires et Ragni est un bon conteur. Non seulement il est un bon conteur, mais il a le sens du verbe, et il accompagne aussi sa narration de mimiques, de gestes, de bruitages qui fascinent. Après avoir vidé la corne, Ragni se sent une petite faim. Une vraie fringale ou un truc de conteur pour affûter l'impatience de son auditoire ? On ne saura jamais. Toujours est-il que c'est l'empressement. C'est à qui il lui tendra un morceau de venaison, une part de galette, de pain, de charcuterie. Les conversations vont bon train. Ceux qui ont vécu des tempêtes mémorables se mettent de la partie. Et bien sûr, c'est à qui aura essuyé la plus horrible tempête. Enfin, Ragni, après avoir vidé une ultime corne de bière, essuyé sa barbe d'un revers de manche et roté comme un bébé, émet quelques qui crée le silence. Satisfait, il parcourt du regard l'assistance avant de reprendre le fil de son récit.
Lorsque nous nous réveillâmes, le soleil brillait haut dans le ciel. La surface des eaux était plate comme celle d'un vulgaire étang. Pas un souffle de vent. Nous en profitâmes pour allumer un feu afin de sécher nos vêtements qui ruisselaient encore. Un rapide inventaire nous apprit qu'il ne nous restait que quelques jours de nous vivre. J'essayais de faire le point. Je ne trouvais aucun repère connu. Mais je pus me rendre compte que nous trouvions bien trop loin à l'ouest. Et c'est à ce moment que l'un de mes hommes aperçut une terre. Intrigués, nous reprîmes les rames pour nous en approcher. Enfin, celles qui nous restaient, car nous en avions perdu un grand nombre dans la tempête. Nous ne pûmes hisser la voile, car le vent étant nul, elle nous aurait freinés plutôt qu'autre chose. nous approchions quand nous fûmes pris dans un courant si violent que nous n'avancions plus d'une coudée. Nous manquions de rame pour lutter et nous dûmes renoncer à nous approcher plus près. En habile orateur, Brajni se tait. Il sait que chacun est suspendu à ses lèvres. Il marque un très long temps avant de reprendre. Mais je peux vous affirmer que cette terre est riche et fertile. Les collines sont couvertes d'arbres et de végétation à perte de vue. Je suis sûr qu'elle est habitée. Nous avons vu une fumée qui, cela ne fait aucun doute, était celle d'un feu contrôlé par des hommes. Mais nous n'avons pu apercevoir aucun être vivant. Le vent se leva, lui aussi était contre nous. Il se mit à souffler fortement de l'ouest. Et comme cela semblait être la direction qu'il fallait suivre pour atteindre notre terre, nous décidâmes de ne pas nous acharner. Cela n'aurait servi à rien. Nous étions épuisés. Et au cas où les habitants de ce lieu auraient été hostiles, nous n'aurions sans doute pas été en état de combattre victorieusement. À ces mots, un murmure d'approbation se fait entendre dans la foule. Et Brojny sourit et reprend.
Nous hissâmes la voile et nous laissant pousser par le vent, nous naviguâmes jusqu'en terre de Groenland. Le voyage fut long. Nous souffrîmes durement de la faim, car nous n'avions plus de nourriture. Mais l'accueil que vous nous faites compense largement toutes ces souffrances. Ah, il est longuement applaudi, et bientôt les cornes remplies de bière fraîche volent de main en main.
Mais dans un coin, silencieux, le regard dans le vague, un jeune homme qui n'a pas perdu une des paroles de Brajni Erjolfsson rêve. Ce jeune homme qui écoutait ce que raconterait Brajni se nomme Leif Erikson. Alors, comme vous n'êtes pas complètement crétin, vous avez compris depuis longtemps que les patronymes vikings se construisent exactement comme ceux des Russes et des Arabes, et que ce jeune homme, s'il eût été Ruskov, se fût appelé Leif Erikovitch, et que, ou bien Leif Ben Erik, s'il était né bien plus au sud. Cette façon de composer les appellations était d'ailleurs assez universelle. Ainsi, dans nos belles contrées françaises, ne disait-on pas il y a peu de temps
« Ouais, qui c'est ce con ? Ben comment, tu le connais pas ? C'est le Maurice du Janot !» Ah ouais, oh bah remarque, j'aurais dû m'en douter, il a l'air aussi con que son père.
Bon, enfin ça c'était une parenthèse culturelle, mais... Donc le dénommé Leif Erikson rêve d'aventure depuis son plus jeune âge. Et le récit qu'il vient d'entendre ravive en lui les plus beaux de ses rêves d'enfant, quand il s'imaginait conquérant de riches contrées, revenant héros parmi les siens, ses navires remplis d'or et d'argent. Il se lève. Il a pris sa décision. Cette terre, celle que Brajni et ses hommes n'ont fait qu'apercevoir, il les trouvera. Il les explorera, il les conquérera. Il rejoint ses camarades qui sont en train de vider corne sur corne. Brajni est parmi eux, racontant encore et encore à qui veut l'entendre les détails de son équipée. Leif s'approche comme il peut jusqu'à lui. À coups de coude, il se fraye un chemin. Et enfin, le voici côte à côte avec le marchand. Quand celui-ci s'interrompt, Leif pose une question, puis une deuxième, et le monologue devient dialogue. Leif veut tout savoir. Brajni a-t-il dressé une carte? A-t-il noté ses relevés? Peut-il les lui communiquer? Brajni est enchanté de l'intérêt du jeune homme. Ils répondront bien volontiers à cette pluie de questions. Ils comptent, racontent. Et au lever du soleil, la maison commune résonne de ronflements. Mais dans un coin, Leif et Brajni dialoguent encore de ces contrées lointaines au milieu des corps endormis. Leif a conclu un accord avec Brajni. Il lui rachète son navire. Le seul problème est que Leif ne possède pas la somme que lui demande le négociant. Mais qu'à cela ne tienne, il va demander à son père.
Ah, Eric, le père, hésite. Mais son fils est jeune, fort, vaillant, il a soif d'aventure... Et la description qu'a fait Brajni de ces terres inconnues laisse présager de telles richesses que le jeu vaut bien la chandelle. Alors, Eric cède. Mais à la condition que Leif s'entoure de marins confirmés et non pas de jeunes blancs-becs. Leif donne son accord... Il laisse même à son père le choix de ses compagnons. Une seule chose lui importe à lui, trouver ses terres, y aborder et les conquérir.
Leif est impatient de partir. Mais Eric ne l'entend pas de cette oreille. On attendra les beaux jours. Et en attendant, on remettra le navire à neuf. Il faut une nouvelle voile et puis aussi une de rechange. Il faut refaire le calfatage, il faut préparer des avirons en nombre. Et puis on entraînera les hommes à son maniement, chaque navire ayant ses particularités. On préparera l'équipement nécessaire, les provisions, les armes, les outils, les vêtements. Hein. Et c'est qu'on s'embarque pas comme ça vers l'inconnu comme on va au supermarché. Et enfin... Le grand jour arrive. On s'étreint, on s'embrasse, les mères et les époux pleurent, les guerriers chantent et plaisantent grassement pour masquer leurs émotions, les enfants rient, pleurent ou jouent ou s'intéressent tout à fait à autre chose. La voile est tissée, les avirons battent la surface des flots, les mains s'agitent pour un dernier au revoir. Le navire s'éloigne et ils sont partis.
Ah, si nous étions au cinéma, à cet instant précis, nous pourrions entendre en fond sonore la musique si connue d'Exodus, le film mythique d'Otto Preminger. Mais... On n'est pas au cinéma, hein, c'est... Alors que dire de cette traversée ? Le fait est qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. La mer. Encore la mer. Toujours la mer. Même MacMahon, s'il avait trouvé une évocation forte, quoique lapidaire, n'a pu s'étendre très longuement sur le sujet. Hein. Que d'eau, que d'eau. Et après avoir navigué des jours et des jours dans les brumes et le froid, parce qu'on a beau être en été, le climat du secteur ne ressemble en rien à celui de la Côte d'Azur, ils arrivent en vue d'une terre balayée par les vents. Pas un arbre à l'horizon, des plages caillouteuses, des montagnes couvertes de glace et de neige. Pour tout dire, le paysage qui s'étale sous leurs yeux ressemble furieusement à celui qu'ils ont quitté. Oh, ben alors ça, c'était bien la peine, murmure Leif dans sa barbe. Dire qu'ils sont déçus est bien en dessous de la réalité. Alors ici, je vais ouvrir une petite parenthèse culturelle. Leif Erikson et ses hommes venaient très vraisemblablement, enfin sûrement même, dirais-je, de découvrir la terre de Baffin. Et question climat, eh ben je peux vous dire que c'est pas terrible, la terre de Baffin. Je viens de faire une petite recherche sur Internet, et en ce moment, enfin, au moment où j'ai écrit ce truc, c'était le 26 mars à 16h, et il faisait moins 21 degrés en bordure de la côte est de ce charmant pays. Eh ben c'est pas étonnant qu'ils soient déçus, hein, nos vikings. C'est ouais, pas étonnant. En tout cas, ça n'avait rien à voir avec le paysage et le climat que leur avait si longuement et si minutieusement décrit Brajni truc machinson. En fait, c'est Herr Judson, son nom, à cet empaffé là. Mais j'arrive jamais à m'en souvenir. Hein. Ils portent tous des noms à coucher dehors avec un billet de logement, ces connards de vikings. Enfin, bref, merde, ils pourraient pas s'appeler Dupont comme tout le monde, non? Enfin, inutile de dire qu'ils ne s'attardent pas dans le secteur, nos vikings. Le temps de récupérer un peu, de refaire une provision d'eau potable, de viande de phoque et d'ours. Et voilà, les voilà repartis. Allez, rame, rame, rameur, ramez. On n'avance à rien sur ce dracard. Là-haut, d'un mètre en bateau. Ça me rappelle quelque chose. Tais-toi et rame, 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 et on va bien la trouver, cette terre. On n'avance à rien sur ce dracard. Ouais, enfin, bref, ce chant rythme les mouvements des avirons. Et vous l'aviez sans doute deviné, hein, futé comme vous l'êtes, hein? Mais vous aviez sans doute pas remarqué qu'il ressemble furieusement à une chanson d'Alain Souchon, hein, ce chant. Hein. Non, hein, non. Hein. Mais enfin, ils rament, nos vikings. Ils rament des jours et puis des jours. Il y en a même qui disent qu'ils en ont marre de ramer et que s'ils avaient su, ils n'auraient pas venu. Enfin bref, il y a comme un vent de révolte. Et Leif Erikson regarde désespérément à l'ouest, en espérant apercevoir la terre avant que ses compagnons pètent un plomb. Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il va nous falloir attendre la semaine prochaine pour connaître la suite de la véritable saga d'Éric le Rouge. Alors je dis, comme d'habitude, un grand merci à Nico qui est derrière la vitre. Et à vous, chers auditeurs, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine fois, même endroit, même heure.